Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 21 avril 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. L'opposition tchadienne dénonce un coup d'État institutionnel au lendemain de la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby après la mort de son père. En Côte d'Ivoire, la base militaire de Ndotré à Abobo a été attaquée la nuit dernière. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué une université et enlevé des étudiants dans l'état de Kaduna. Nombreuses réactions après le verdict qui a reconnu l'ancien policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les principaux partis d'opposition tchadiens dénoncent un coup d'État au lendemain de la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby après la mort de son père Idriss Déby Itno. Le point avec Nani Talani.
Une trentaine de partis politiques de l'opposition appellent à l'instauration d'une transition dirigée par les civils à travers un dialogue inclusif. Ces partis appellent la population à ne pas obéir aux décisions illégales, illégitimes et irrégulières prises par le Conseil militaire de transition. Par ailleurs, ils mettent en garde la France, qui a soutenu Idriss Déby depuis son accession au pouvoir en 1990, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad. Parmi les signataires figurent le parti de Saleh Keb Zabo et la formation de Succès Masra. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, a nommé hier 14 généraux proches de son défunt père au sein du Conseil militaire de transition et a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois.
Le Conseil militaire de transition au Tchad a annoncé la réouverture des frontières aériennes et terrestres qui avaient été fermées hier après l'annonce de la mort d'Idriss Déby. Le CMT a également raccourci la période du couvre-feu à partir de 20h au lieu de 18h, selon un communiqué signé par le général Azem Bermandoa Aguna. La Mauritanie a salué les efforts du défunt président Idriss Déby Itno pour instaurer la stabilité et la sécurité au Sahel et a réitéré son attachement à la coopération régionale pour faire prévaloir le respect de la légalité constitutionnelle. La Mauritanie est membre du G5 Sahel dont le Tchad est un pilier pour combattre les groupes djihadistes. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 2 blessés ce mercredi dans une embuscade contre un détachement militaire près de Yirgou, dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires. Un détachement du groupement de forces du secteur nord est tombé ce matin dans une embuscade tendue par des individus dans la province du Samatenga. Des opérations de ratissage ont été entreprises afin de retrouver les assaillants. En République démocratique du Congo, au moins 10 civils, dont 6 enfants, ont été tués hier à Niara, en Ituri, dans une attaque attribuée aux miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, selon la MONUSCO. Plusieurs magasins ont été pillés et des maisons brûlées, selon un chef local affirmant avoir enregistré 12 morts et 4 blessés. L'armée a confirmé l'attaque avec un bilan de 5 morts. Le ministre sortant de l'enseignement congolais a été arrêté hier soir à Brazzaville à la demande de Kinshasa qui l'accuse de détournement de fonds. Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement de la RDC, a été débarqué mardi soir d'un vol d'Air France en partance pour Paris à la demande de Kinshasa qui sollicite son extradition. Monsieur Bakonga a été recherché par le parquet depuis le 16 avril dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds. En Côte d'Ivoire, la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo à Abidjan a été attaquée par des individus non identifiés la nuit dernière. Notre correspondante Aïcha Diarra nous en dit plus.
Selon le communiqué officiel du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major, c'est aux environs de 1h du matin que des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo, avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger du côté des forces armées, 3 tués et un blessé fait prisonnier côté ennemi, ainsi que du matériel saisi. Des opérations de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. On ne connaît pas encore les mobiles de cette attaque, mais les autorités affirment que la situation est sous contrôle. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Dans le nord du Nigeria, des hommes armés ont kidnappé un nombre indéterminé d'étudiants après avoir attaqué une université privée dans l'état de Kaduna. Un employé de l'établissement a été tué. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole de la police, Mohamed Djalidje, des bandits présumés ont envahi l'école en grand nombre. Il n'a pas été en mesure de donner le nombre exact d'étudiants enlevés. Les autorités disent suivre la situation. Depuis plusieurs mois, des gangs armés, communément appelés bandits, dans cette région, procèdent à des kidnappings de masse dans les établissements scolaires en échange de rançons. 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Début mars, à Kaduna déjà, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat d'un lycée professionnel, enlevant 49 élèves, dont seuls 10 ont été libérés. Leur ravisseur avait publié des vidéos montrant des victimes maltraitées pour demander le paiement d'une rançon à leurs familles et aux autorités. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le président de l'association des parents d'élèves avait dénoncé l'inaction des autorités de l'État de Kaduna qui ont interdit toute négociation avec les ravisseurs.
Les États-Unis ont échoué ce mercredi à faire adopter au Conseil de sécurité une déclaration commune appelant à éviter l'escalade dans le conflit au Sahara occidental. L'Inde, la Chine et des pays africains jugeant qu'elle pourrait être mal interprétée et devenir contre-productive selon des diplomates. En dépit d'une demande d'un responsable de l'ONU pour que le Conseil s'exprime sur la question accrue entre le Front Polisario et le Maroc, aucun accord n'a pu être obtenu lors d'une session à huis clos. La justice européenne a ordonné le retrait d'Aïcha Kadhafi, fille du défunt dirigeant libyen, de la liste des personnes frappées de sanctions depuis une décennie. Aïcha Kadhafi, avocate résidant à Oman, est interdite de mener des activités politiques. Muammar Kadhafi, renversé en 2011, est toujours inscrit sur cette liste, ainsi que ses fils Khamis, Mouattassim et Salif al-Arab, tués pendant la révolution. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui doit être jugé le mois prochain dans une affaire de corruption, n'a plus de défenseur. Son principal avocat Eric Mabuza et son équipe ont signifié au tribunal de Pietermaritzburg leur retrait sans explication. L'autre avocat fidèle de M. Zuma, Muzi Chikakane, se serait également retiré de l'équipe de défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nombreuses réactions aux États-Unis et à travers le monde après le verdict qui a reconnu l'ancien policier Derek Chauvin coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Une justice obtenue dans la douleur, a réagi Ben Crout, avocat de la famille Floyd. Nous avions besoin d'une victoire et nous l'avons eue, a ajouté Rodney Floyd, frère du défunt. Le président Joe Biden appelle l'Amérique à lutter contre le racisme, qualifiant ce verdict de changement significatif. La vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès, souligne Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Pour Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, le nom de Floyd restera à jamais synonyme de justice. Pour d'innombrables victimes d'origine africaine et leurs familles, aux États-Unis et à travers le monde, le combat pour la justice continue, d'après Michelle Bachelet, commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Le juge Peter Kyle prononcera sa sentence dans 8 semaines. Derek Chauvin risque 12 à 40 ans de prison.
Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale sur la police de Minneapolis. La police américaine a tué hier par balle une adolescente noire à Columbus dans l'Ohio qui attaquait une autre fille avec un couteau. Selon le chef de la police de la ville, Michael Woods, des policiers ont répondu à un appel d'urgence. La police a publié une partie de l'enregistrement de la caméra portée par le policier qui a tiré sur la fille de 16 ans. Des manifestations ont éclaté dans la ville après cet incident. L'Allemagne envisage d'achever le retrait de ses troupes en Afghanistan début juillet, indique le ministère de la Défense, alors que l'armée américaine doit quitter le pays d'ici le 11 septembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La compagnie nationale libyenne de pétrole a décrété l'état de force majeure sur le site d'Al-Hariga, l'un des principaux terminaux pétroliers du pays, en raison de l'interruption de la production et de l'exportation de pétrole brut. Selon l'entreprise, cette mesure est la conséquence du refus, depuis de longs mois, de la Banque centrale de débloquer le budget du secteur pétrolier. Le géant pétrolier français Total a suspendu des contrats avec au moins deux sociétés de construction liées à son projet de son site gazier de plusieurs milliards d'euros au Mozambique. Total avait déjà cessé début avril ses opérations dans la province de Cabo Delgado, évacuant tout son personnel. Des groupes armés avaient attaqué la ville portuaire de Palma le 24 mars. Pour terminer, au Gabon, la société pétrolière malaisienne Petronas a attribué à l'opérateur danois Maersk Drilling un contrat d'exploration en eau ultra profonde pour 24 millions de dollars. Le contrat devrait débuter au troisième trimestre 2021 pour une durée estimée de 60 jours. Il permettra de forer un puits à environ 2100 mètres de profondeur dans le bloc F13 au large du Gabon. Petronas a aussi des participations dans les licences de pétrole offshore dans d'autres pays africains, dont la Gambie.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. 48 heures et puis s'en va. Après avoir menacé lundi de bouleverser l'ordre établi du football européen, les promoteurs de la Super League ne peuvent que constater l'échec de leur projet controversé. N'est-ce pas, Bagasikoura?
Oui, les six clubs anglais initialement engagés, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United et Chelsea, se sont retirés de la Super League. La faute à la pression de l'UEFA, de la FIFA et de certains dirigeants politiques, mais aussi les manifestations publiques de mécontentement des supporters, surtout en Angleterre. En Italie, les trois clubs impliqués renoncent à leur tour au projet, même si la Juve, l'AC Milan et l'Inter Milan continuent de prôner une évolution du football mondial. La Juve, présidée par Andrea Agnelli, l'un des principaux instigateurs de ce projet, avec le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, reconnaît que cette compétition a désormais peu de chances de voir le jour. Pour autant, la Juve indique dans un communiqué rester convaincue du bien fondé des hypothèses sportives, commerciales et juridiques du projet. En Espagne, l'Atlético est le premier club à abandonner l'idée. Bilan sur les 12 clubs de départ, il ne reste plus que deux, le Real Madrid et le FC Barcelone, qui maintiennent encore leur engagement. En tout cas, Yacouba, pour le moment.
Ici aux États-Unis, Adam Silver salue le verdict reconnaissant le policier Derek Chauvin, coupable du meurtre de George Floyd. Dans un communiqué commun avec Michelle Roberts, le directeur de l'Association des joueurs de basket, le patron de la NBA, promet que son organisation va poursuivre sa campagne en faveur de réformes de la justice et la police. Pour rappel, les joueurs de la NBA se sont joints aux manifestations après le décès de l'Afro-Américain mort étouffé sous le genou du policier blanc Derek Chauvin. Sur les parquets, les Brooklyn Nets sont sortis vainqueurs des Pelicans 134 à 129 à l'issue d'un match très offensif à la Nouvelle-Orléans. Les Los Angeles Clippers ont battu Portland d'un souffle 113 à 112. Les Knicks de New York ont pris le dessus sur Charlotte 109 à 97. Atlanta a dominé Orlando 112 à 96. Sur le continent, les matchs de la cinquième journée de la phase de poule se jouent en Coupe CAF. Le Coton Sport de Garoua s'est incliné 1-2 devant la JS Kabylie d'Algérie. Mais les deux formations gardent la tête du groupe B avec 9 points chacune. Dans le groupe D, Namungu de la Tanzanie s'est incliné à domicile 0-3 face au Raja Casablanca qui consolide sa première place avec 15 points suivi de Pyramide d'Égypte. Deuxième avec 9 points après sa victoire 1-0 sur le terrain de Nkana de la Zambie. 0-0 entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et l'Entente Sétif d'Algérie.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, après la mort du président Idriss Déby Itno, un conseil militaire de transition a été mis en place. Il est dirigé par son fils, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans. Entouré d'une quinzaine de généraux, il conduira la transition pour une période de 18 mois. Un organe diversement apprécié par les partis d'opposition et les acteurs de la société civile. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Bien que la ville soit calme au deuxième jour du décès du président Déby, la population de N'Djamena vit dans une certaine psychose. Le groupe rebelle FAK menace de marcher toujours sur N'Djamena si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. À l'intérieur, des rumeurs font état de dissensions au sein de l'armée nationale. Le conseil militaire de transition ne fera pas l'unanimité au sein de la grande muette. Certains chefs de famille font le stock de prévisions et d'autres préfèrent mettre les enfants, les femmes et personnes âgées à l'abri dans des villages voisins du Cameroun.
Un militaire n'a jamais été un démocrate et ils veulent que ça continue comme ça.
Dobia Asingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, pour lui, le peuple doit dire non à la confiscation du pouvoir par les militaires.
Ils disent on va manipuler de manière indéfinie cette charte de la Constitution qui risque de nous amener encore comme M. Idriss Déby nous a mené en bateau depuis 31 ans avec les mandats qui sont perpétuellement ouverts pour lui. On ne doit plus accepter cela et le peuple doit dire non, nous n'en voulons pas.
Un regroupement des partis politiques de l'opposition démocratique a dans une déclaration commune exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Mahamat Bichara est le porte-parole de ce regroupement.
Condamne avec fermeté les coups d'état institutionnels opérés par les généraux après la mort du président de la République Idriss Déby Itno. Rejette toute dévolution monarchique du pouvoir au Tchad. Appelle à l'instauration d'une transition dirigée par les civils dans le respect de l'ordre républicain à travers un dialogue inclusif. Invite toutes les parties en conflit à faire taire au plus vite les armes et à s'asseoir pour une solution pacifique et salutaire pour notre pays.
Pour la coordination des actions citoyennes, une coalition politico-civile qui s'oppose au sixième mandat du défunt président Déby, c'est le refus catégorique du dialogue qui a conduit à cette situation. Maître Max Lualgar, porte-parole de la dite coordination, qualifie la mise en place du Conseil militaire de transition de coup d'état institutionnel.
Nous constatons malheureusement que les proches du pouvoir n'ont pas compris la détermination du peuple et se sont accaparés du pouvoir en désignant son fils comme s'il s'agissait d'une monarchie sans se soucier de la constitution en vigueur. La coordination des actions citoyennes dénonce et condamne ce coup d'état de toutes ses forces. Il est plus qu'urgent de contribuer à l'édification d'un pouvoir civil et démocratique qui puisse assurer une transition inclusive et apaisée.
Tout en demandant aux forces de défense et de sécurité qui sont attachées à la République de prendre leurs responsabilités en soutenant la revendication du peuple, Maître Max Lualgar appelle à une grève générale dans l'administration publique et privée. Le flou règne toujours sur la circonstance exacte de la mort du président Déby. Le Conseil militaire de transition décale le couvre-feu de 20h à 5h du matin et invite les agents de l'État à vaquer normalement à leur occupation. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Il y a déjà apparition d'une dissidence dans les rangs des militaires tchadiens. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, dans une interview exclusive avec le général Idriss Mahamat Abderrahmane Diko, opposé au Conseil militaire de transition.
C'est une grande perte pour le Tchad, pour l'Afrique et pour le continent. Nous regrettons. Dédé, c'est vrai, le président il est mort sur le champ de bataille, mais nous étions aussi là-bas sur le champ de bataille. Et il est tombé après notre retour, avant que même la majorité des cadres supérieurs militaires arrivent à Djemena. Nous avons appris que donc un petit cercle amical militaire qui a décidé de désigner le général Moukaka comme président d'un comité militaire de transition. Donc hier, par rapport à ce que nous avons dit écouter la déclaration de la coordination des actions citoyennes. Ils ont dit non, ce coup d'État perpétré par un petit cercle militaire. Et nous avons décidé, après une consultation entre les généraux officiers subalternes et hommes de rang, on a décidé de faire une déclaration de soutien à la décision du peuple tchadien.
Vous êtes combien de généraux?
Et nous sommes nombreux. Nous représentons l'armée nationale et républicaine.
Et donc aujourd'hui, il y a deux camps?
Oui, il y a deux camps, bien sûr. Et nous avons demandé aussi à nos frères d'armes qui ont fait la déclaration de la création de ces fameux comités militaires de revenir à la raison pour qu'on puisse s'asseoir ensemble sur la même table et en incluant la société civile, les syndicats, toutes les organisations qui représentent le peuple tchadien dans sa diversité, tout ça, pour que le dialogue soit inclusif, en vue de faire sortir des résolutions qui pourraient garantir une transition qui va aboutir à des élections présidentielles, indépendantes, libres, inclusives. C'est ce que nous avons souhaité. Nous leur avons demandé de revenir à la raison, parce que le Tchad, c'est la vie du Tchad, c'est l'avenir de notre pays qui est en danger. Il ne faut pas que nous sommes des autres. Nous serons les futurs auteurs du basculement du Tchad dans le chaos. Ce que nous ne souhaitons pas.
Mais c'est jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qui sont avec le général Mamad Kaka. Quelle est la suite de votre mouvement?
Nous avons décidé de soutenir la voix du peuple. Nous leur demandons de revenir au souhait du peuple, parce que le peuple qui est la souveraineté est dans la main du peuple. La souveraineté dans la main du peuple. L'armée doit soutenir, le rôle de l'armée, c'est de soutenir le peuple tchadien. Nous sommes au service du peuple tchadien. Donc si le peuple tchadien dit non à une mascarade ou à un petit coup d'État, maintenant nous allons revenir vers le peuple tchadien pour que nous soyons ensemble. Notre responsabilité, c'est de sécuriser, c'est de garantir la stabilité du pays et défendre l'intégrité du territoire. C'est ça le rôle de l'armée. Mais le rôle de l'armée, parce que nous sommes dans un système démocratique. Il y a des dispositions constitutionnelles qui sont prévues dans la loi fondamentale. Alors, pourquoi sortir hors du cadre légal juridique pour perpétrer dans la précipitation un petit coup d'État?
Et donc, vous ne reconnaissez pas l'autorité du Conseil militaire de transition qui vient d'être mise en place?
Le peuple tchadien qui ne reconnaît pas l'autorité de ces fameux comités militaires. Donc, nous sommes derrière le peuple.
C'était le général Mamad Abderrahmane Diko au Tchad.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'après-débit au Tchad et dans la région. Le chef de l'État tchadien, dont la victoire à la présidentielle du 11 avril venait d'être confirmée, a succombé à ses blessures suite à des combats au front face aux rebelles du FACT. Son fils, Mamad Idriss Déby, a aussitôt pris les rênes du pays dans le cadre d'un conseil militaire. Quelles seront les implications politiques et sécuritaires de la mort subite d'Idriss Déby pour le Tchad et la région? Quelles conséquences dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, dans laquelle l'armée tchadienne était fortement impliquée? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le secteur agricole camerounais emploie de nombreuses personnes, mais beaucoup ne connaissent pas les caractéristiques de la terre exploitée, ce qui entraîne une agriculture inefficace. Un ingénieur en informatique a créé un kit d'analyse électronique qui teste la qualité du sol et son aptitude aux cultures afin d'améliorer le rendement agricole. Un reportage d'Anne Nzwanke à EDEA. Le récit est de Mouamadou Oumfa.
L'an dernier, Rostan Simeux, agriculteur camerounais âgé de 26 ans, a dépensé toutes ses économies pour démarrer une plantation de bananes plantain et de maïs. Comme tous les novices en agriculture, il s'est battu pour avoir un rendement efficace.
Nous sommes déjà aujourd'hui à 13 mois. La banane est encore en état de croissance. Les questions ont commencé à se poser.
La start-up Clinique Agro a créé un kit avec une application mobile appelée Clinique Sol pour l'analyse instantanée du sol. Le fondateur, Pyrrhus Koudjou, dit qu'il a inventé ce kit pour aider les agriculteurs qui perdaient de l'argent.
Il est très important aujourd'hui pour l'agriculteur de pouvoir analyser son sol. Pourquoi ? Parce que connaître son sol, c'est pouvoir sécuriser son investissement, c'est pouvoir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est pouvoir réduire ses coûts d'intrants et c'est pouvoir améliorer sa productivité et sa rentabilité agricole.
L'agriculture est l'un des éléments de base de l'économie et la plupart des Camerounais travaillent dans ce secteur. Mais les experts affirment que nombre d'entre eux ne sont pas formés pour analyser la qualité des sols et améliorer leur productivité. L'agronome Rodrigue Ngonon enseigne à l'école pratique d'agriculture de Binguela.
Et cela nous ramenait peut-être à voir une approche aujourd'hui vers laquelle nous allons en agriculture, qui est celle de l'agriculture de précision, qui détermine exactement la quantité d'éléments fertilisants qu'il faudra apporter à une plante afin qu'elle puisse produire de façon rentable.
Pour l'agriculteur Roland Simeux, l'analyse de Clinique Sol montre que la qualité de son sol est médiocre et très acide. L'application lui recommande de passer à la plantation de concombres, de laitue, d'aubergines, d'ananas ou de manioc qui vont prospérer plus facilement.
Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Déjà qu'on a un partenaire Clinique Agro qui nous accompagne avec des nouveautés que vous voyez, on va faire des prélèvements et puis passer à autre chose. Pourquoi pas autre culture que la banane plantain.
Une année à peine depuis sa création, Clinique Agro affirme que son kit mobile a testé les sols de près d'un millier d'exploitations agricoles.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, d'homicide involontaire et de violence volontaire ayant entraîné la mort de George Floyd. Lors d'une interpellation il y a près d'un an dans cette ville du Minnesota, Chauvin avait maintenu un genou sur le cou de Floyd pendant 9 minutes. Esha Sarai a recueilli des réactions sur place. Le récit est de Rosine Munezero.
Alors que le jury tenait ses libérations dans le procès pour meurtre de George Floyd, le palais de justice du comté de Hennepin est devenu le lieu de rassemblement pour la célébration après le verdict.
J'adore voir mon peuple noir ici. J'aurais aimé voir tout le monde ici, debout avec nous. Je ne sais juste pas quoi dire d'autre. Ici, la vie des Noirs compte. Black Lives Matter.
Nous voulions une condamnation sur tous les chefs d'accusation et c'est ce qu'on a obtenu. Et pour chaque personne ici, comme vous pouvez le voir, nous avons tous ressenti la même chose. Peu importe les conditions de vie, peu importe à quoi vous ressemblez, coupable, c'est ce que nous voulions et c'est ce que nous avons obtenu.
À la Maison-Blanche, le président Joe Biden, aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, a qualifié le verdict d'un pas en avant. Il a appelé à l'adoption d'une loi sur la réforme de la police.
We have to listen. I can't breathe.
Nous devons écouter. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd. Nous ne pouvons pas laisser ces mots mourir avec lui.
Les manifestants sont descendus dans les rues pour célébrer le verdict à Minneapolis, mais beaucoup estiment qu'il y a encore du travail à faire, y compris dans le cas de Dante Wright, qui a été abattu par la police ici la semaine dernière.
Pour être parfaitement honnête, ce n'est qu'un seul dossier. Le combat n'est pas encore terminé. Comme vous le voyez, nous faisons la fête et nous passons un bon moment. Mais nous avons toujours à faire face à Kim Porter. Donc, la lutte doit continuer et nous devons encore nous battre.
Je me fiche de savoir qui est reconnu coupable et qui ne l'est pas. Arrêtons simplement l'effusion de sang. Traitons les gens comme des citoyens égaux.
Mais pour le moment, beaucoup espèrent que ce verdict est en tournant pour la justice raciale aux États-Unis. Les groupes de défense des droits de l'homme disent que c'est la première fois que l'État du Minnesota condamne un policier blanc pour la mort d'un homme noir.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage. Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.